Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Jacques Thomas, bonjour.
Bonjour madame.
Je ne vais pas énumérer tous vos titres, toutes vos œuvres. On demandera à nos auditeurs de podcaster l'émission de la semaine dernière. En tout cas, je peux dire, rappeler simplement que vous étiez professeur d'histoire moderne à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et que vous avez travaillé sur l'histoire économique et sociale de la France méridionale pendant l'Ancien Régime. Donc là, nous parlons... Et voilà pourquoi nous sommes là à cette radio. Nous parlons de l'affaire Calas à partir d'un ouvrage que vous avez écrit et publié aux éditions Midi-Pyrénéennes, 1762, l'affaire Calas, religion et intolérance au siècle des Lumières. Évidemment, moi, immédiatement, et la semaine dernière, je vous l'ai déjà dit, je me suis dit, mais finalement... On vit actuellement une forme d'intolérance de part et d'autre. Dans beaucoup de cas, on sent qu'il y a des problèmes. Il y a les juifs, les musulmans, les catholiques, les chrétiens, je dirais plutôt. Il n'y a plus cette distorsion entre protestants et catholiques. Il n'y a plus de querelles, pas que je sache.
Pas, ça dépend où et ça dépend...
Ah, ça dépend où.
Oui. Non, mais bon, la situation, par exemple, aux États-Unis, où les protestants sont plutôt majoritaires et dominants, fait que ce sont des questions qui ont de l'importance pour la communauté protestante qui sont parfois mises en avant dans le domaine politique par, je dirais, les disciples de Trump, ouais. Le monde MAGA,
oui.
Make America Great Again, est un monde plutôt inspiré du protestantisme, encore que ça tend à les fondamentalistes des deux côtés se retrouvent. Donc, vous avez le vice-président J.D. Vance qui s'est converti au catholicisme alors qu'il a été élevé protestant et il est devenu catholique et maintenant il est plus catholique que le pape, je pense.
Oui. C'est très américain, ça. Alors, nous avons présenté l'affaire Calas, qui est connue, je pense, de beaucoup de monde. Enfin, les lycéens l'ont connue à travers Voltaire, et on parlera de Voltaire et de son intervention aussi. Et on va parler aussi de cette justice à l'époque, donc à Toulouse. Et on se dit, mon Dieu, mais la justice s'est malgré tout améliorée. Il y a des pare-feux, et apparemment, il n'y en avait pas tellement à l'époque.
De
pare-feu, c'est-à-dire...
Ah oui, de pare-feu, oui, de protection.
Oui, de protection.
Soyons clairs, dans la justice criminelle, parce qu'on parle là d'une affaire de justice criminelle, les accusés n'ont pour l'essentiel pas droit au conseil, c'est-à-dire ils ne sont pas conseillés par des avocats, en tout cas de façon systématique. Donc, les Calas, par exemple, n'ont pas un avocat attitré et ils doivent être en présence de leur juge seuls, face au juge, sans avoir quelqu'un à côté d'eux, comme aujourd'hui dans le système judiciaire contemporain.
Oui. Alors, justement, vous mettez le doigt sur quelque chose qui m'a intriguée. Alors, effectivement, ils n'avaient pas droit d'être assistés, d'être aidés, conseillés. Je parle de la famille Calas. Mais il se trouve qu'en fait, ils ont dans leur entourage et même dans la famille beaucoup d'avocats.
Eh oui, ça c'est une des raisons sans doute qui font que l'affaire Calas est devenue célèbre parce qu'il y avait autour d'eux des avocats qui ont travaillé, je dirais presque depuis le jour 1, de l'affaire, en allant et un avocat qui est allé leur rendre visite à l'hôtel de ville où ils étaient prisonniers, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pour avoir leur version des faits et de faire en sorte qu'ils, je dirais, se défendent convenablement. Alors, c'était totalement informel et les capitouls, une fois qu'ils avaient eu vent de cette intervention, n'ont plus laissé cet avocat accéder aux prisonniers. Et donc, il y a une présence et ensuite, surtout, dans la deuxième phase de la procédure, quand ça va devant le Parlement, mais il faudra revenir là-dessus, là, il y a des avocats qui écrivent pour eux, qui les défendent, mais je dirais, ils doivent le faire depuis l'extérieur de la prison. Ils ne parlent pas aux accusés.
Ils ne conseillent pas.
Et donc, ils ne les conseillent pas. Et les accusés ne savent pas nécessairement ce que les avocats ont dit lors de leurs interventions écrites. Parce que nous n'avons pas de preuves qu'ils aient pu lire les écrits des avocats dans leur cellule.
D'accord. Alors, on va finir par parler de l'affaire Calas, mais j'aimerais que vous nous disiez un petit peu, vous parliez du paysage chrétien de l'époque à Toulouse. Parce que Toulouse est quand même devenue très catholique. Alors, j'ai découvert ça, je ne savais pas qu'elle était à cette époque-là extrêmement catholique.
Disons que Toulouse a eu une période au XVIe siècle, où il y a l'arrivée du protestantisme sous ses différentes formes, d'abord luthérienne et ensuite calviniste, dans le deuxième tiers du XVIe siècle. Et ça aboutit à la création d'une communauté protestante, militante, qui défile dans les rues, qui manifeste, qui fait du bruit, et qui aboutit même à une forme d'essai de prise de la ville au mois de mai 1562, donc au milieu du XVIe siècle.
Rien à voir avec les cathares.
Ah non, a priori non. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes doctrines et ce ne sont pas les mêmes personnes, quoi qu'il en soit. Donc, cette tentative de prise de la ville avec une bataille rangée avec les protestants au Capitole et les catholiques au Parlement, et avec des canons qui tirent d'un côté et de l'autre, puis se termine par une victoire militaire catholique. Le 17 mai 1560.
Une vraie bataille!
Oui, c'est une guerre.
C'est
une petite guerre civile, mais qui se sont passées dans d'autres villes, Lyon, etc. Ce n'est pas qu'à Toulouse, ça s'est passé. On appelle même, je pense, les historiens de cette époque parlent de la saison des prises de villes. C'est-à-dire les protestants essayent de saisir les institutions pour pouvoir les contrôler, puisqu'ils ne peuvent pas contrôler la royauté. Parce que le roi est catholique, ils essaient de contrôler les villes afin de pouvoir négocier, etc. Et donc ça échoue. Et il y a les protestants quittent la ville en masse, des centaines, je ne sais pas combien exactement, quittent la ville et ils sont pour une part massacrés par des catholiques qui les attendent au tournant et qui, maintenant qu'ils ont déposé les armes, sont une proie relativement facile. Donc, déjà, ça, c'est une rupture dans l'histoire de la ville. Et ça se terminera un peu 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, pardon, en 1572, avec la Saint-Barthélemy à Toulouse. S'il y a la Saint-Barthélemy célèbre à Paris où il y a le massacre de protestants les catholiques organisés. Oui. Et là, à Toulouse, quelques semaines après, on a l'équivalent à une échelle moindre, mais où il y a aussi des gens tués, dont le plus célèbre, peut-être, homme qui est tué, c'est le juriste Jean de Corras, qui est celui qui a fait connaître l'affaire Martinguer, dont on a parlé tout à l'heure. C'est lui qui a écrit le rapport, qui était le rapporteur du Parlement pour cette affaire, qui était protestant et qui avait été emprisonné. Et ensuite, les catholiques sont allés au Parlement le sortir de sa cellule et le pendre avec sa robe rouge de juge avec deux autres magistrats toulousains.
Voilà, bon, vous nous avez dressé un tableau assez inquiétant. Alors, nous allons poursuivre la semaine prochaine. Vous voyez, le temps écoulé, le temps passe très vite hein, avec vous. Là. Vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Et on parlera enfin de cette fameuse famille Calas, dont la maison se trouve la rue des Filatiers. En tout cas, Jacques Thomas, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Très bien, à la semaine prochaine, madame. Thank you.